RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Les volleyeurs tombent de haut dimanche sur le toit du monde avec leur victoire en Ligue mondiale. Et voilà qu'aujourd'hui, la star de l'équipe, Erwin Engapet, a été entendu par la police. Il aurait agressé un contrôleur de la SNCF ce matin à la gare Montparnasse, à Paris. Attention, ça va grimper. Les coureurs du Tour de France goûtent leur deuxième et dernier jour de repos. Aujourd'hui, demain, les Alpes, jusqu'au bout, avant les Champs-Élysées. Chris Froome peut-il perdre son maillot jaune? Un Français peut-il s'imposer dans les Alpes? Cyril Guimard est avec nous dans un quart d'heure. Comment peut-on avoir 4 joueurs dans les 20 meilleurs mondiaux et perdre à chaque fois? L'équipe de France de tennis a le Vagalam après sa défaite en quart de finale de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne. D'où vient l'échec? On en parle avant 19h. Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux, sera notre invité à 20h30. On parlera aussi du PSG dans la page foot. Benjamin Stambouli a signé. Ça y est, qu'en pensez-vous, supporters parisiens? On vous attend au 32-16. Et puis c'était quoi cette surprise? On va découvrir à quelle sauce ont été mangés les joueurs du 15 de France aujourd'hui. Ils ont été emmenés quelque part dans la montagne, près de mais il ne savait rien de plus. Laurent Depré va tout nous dire. L'actu sport, c'est avec Martial Fernandez. Salut Martial.
Salut Virginie, bonsoir à tous.
Et le volleyeur français Erwin Engapet a donc été entendu par la police.
L'équipe de France de volley était fêtée hier pour sa victoire en Ligue mondiale. C'est beaucoup moins glorieux aujourd'hui et ça se passe cette fois dans la rubrique Faits divers. Erwin Engapet, l'attaquant vedette des Bleus, aurait agressé un contrôleur de la SNCF ce matin, Julien Richard.
Les faits se sont déroulés ce matin, gare Montparnasse à Paris. Erwin Engapet aurait demandé au contrôleur d'un train à destination de Bordeaux de retarder le départ du TGV pour attendre un ou plusieurs proche en retard. La discussion se serait alors envenimée et l'attaquant de l'équipe de France aurait donc frappé le contrôleur au visage. Bilan, une arcade sourcilière ouverte. La SNCF a porté plainte. Erwin Engapet a été entendu par la police, alors non pas sous le régime de la garde à vue, mais en audition libre. Il sera reconvoqué dans les prochains jours. En décembre dernier, Erwin Engapet avait été condamné à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir participé à une rixe à la sortie d'une boîte de nuit en 2013. La star de l'équipe de France, élu meilleur joueur de la Ligue mondiale, avait réussi ces derniers mois à gommer son image de bad boy du volley français qu'il traîne depuis son exclusion de l'équipe de France. C'était en plein mondial en 2010 pour avoir insulté le sélectionneur de l'époque, Philippe Blin. En janvier 2014, il avait refusé de retourner jouer dans son club en Russie. Il ne supportait plus l'éloignement avec de sa compagne et sa fille. Un club entraîné pourtant par son père qui ne lui a pas pardonné. Depuis l'arrivée de Laurent Tilly à la tête de l'équipe de France, il est devenu à 24 ans le leader sur et en dehors du terrain. Il est par exemple à l'origine du surnom des Bleus, la Team Yavbou.
Pascal Foussard, le manager de l'équipe de France de volley, sera en ligne avec nous à 18h30. Le Tour de France, c'était journée de repos à Gap et matinée d'explications pour l'équipe du maillot jaune.
Chez Sky, on avait prévu de se justifier, conférence de presse matinale pour répondre à ceux qui doutent des performances de Chris Froome. Fred Adam, il y avait beaucoup de caméras et l'équipe britannique avait préparé sa défense.
Oui, c'est un exercice inédit auquel s'est livrée ce matin l'équipe Sky sous le ciel bleu de Sisteron. Plus que le maillot jaune, c'est son entraîneur, le dénommé Tim Kerrison, qui a été la vedette du jour. Watt, rythme cardiaque, cadence de pédalage, rapport poids-puissance. L'état-major de la Sky a déballé tous les chiffres du maillot jaune sur la montée de la Pierre Saint-Martin. La montée où Froome a assommé le tour à l'entrée des Pyrénées. Des valeurs livrées et analysées par les Sky eux-mêmes pour répondre aux soupçons formulés par certains observateurs. Une avalanche de chiffres a donné mal au crâne en cette journée de repos et qui aura convaincu ou pas les spécialistes sans forcément convaincre le spectateur lambda.
Merci Fred. Et chez Sky, on a aussi parlé de la suite du tour, notamment de l'étape de demain, la 18e Digne Pralou, 161 km avec en fin d'étape l'enchaînement redouté Col d'Alos monté vers Pralou. Le maillot jaune Chris Froome, toujours soucieux du détail, est plutôt bien renseigné sur le profil de l'étape.
On a eu un vrai aperçu de ce à quoi l'étape pourrait ressembler lors du dernier dauphiné, quand Bardet a basculé au sommet et a repris une minute dans la descente pour aller gagner ce jour-là. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que les coureurs essayent de prendre la course en main. On l'a vu hier avec des coureurs qui ont cherché à prendre du temps dans la descente, notamment Vincenzo Nibali. Peut-être que les gars de Movistar ont l'intention de faire quelque chose. Alberto Contador aussi. Ça ne serait pas la première fois qu'il essaye de créer des écarts dans une descente. En tant qu'équipe, il faut qu'on s'attende à tout sur cette course et qu'on soit prêt à y aller.
Chris Froome avec Yann Pech, Ralph Froome premier du classement général avant les 4 étapes alpestres avec 3-10 d'avance sur Quintana, 3-32 sur Vanguard de Rennes, 4-02 sur Valverde et 4-23 sur Contador. Et puis Jean-Christophe Perrault, le deuxième du tour l'an dernier, vient d'annoncer que ce serait son dernier Tour de France à 38 ans.
Un Marseillais à Paris, Benjamin Stambouli a signé jusqu'en 2020 au PSG.
Et on a fait simple, au PSG, Benjamin Stambouli aura le même numéro que Yohan Cabaye, celui qu'il remplace dans l'effectif, le numéro 4. 5 saisons de contrat pour le milieu défensif de 24 ans qui arrive de Tottenham. Il a rejoint ses nouveaux coéquipiers aux États-Unis dans le New Jersey où le club est en stage et Benjamin Stambouli a apprécié sa première rencontre avec ses nouveaux collègues.
C'est des grands joueurs, donc ils ont la classe de savoir recevoir. Ils m'ont épargné la petite chanson ce soir, donc je suis assez heureux, je vais pouvoir dormir tranquille. Mais bon, je me prépare pour demain, mais tout s'est bien passé en tout cas. De pouvoir côtoyer ces gens-là tous les jours, ça va me permettre de passer un palier. Je vais les observer avec grande attention et essayer de tirer le maximum de ce que je peux. Voilà, je pense que c'est des gens qui sont ouverts à donner des conseils. C'est important aussi, ça a beaucoup pesé dans ma décision parce que le calibre de ces joueurs-là font que individuellement, je vais beaucoup progresser.
Benjamin Stambouli sur PSG TV, Paris qui jouera cette nuit face à la Fiorentina Harrison aux États-Unis. Le PSG est capable de shipper des joueurs au grand Barça, pas encore les grandes stars quand même, mais un gamin de 12 ans, très doué, un Français qui était en Catalogne depuis l'âge de 7 ans. Il s'appelle Caïs Ruiz et il rejoint les jeunes du PSG. Tout ça s'est fait dans des conditions particulières, Maureen Lehoux.
Il semble encore tout frêle dans son maillot du Barça, un peu trop grand pour lui, mais ses dribbles et sa gestuelle lui donnent presque déjà l'impression d'un pro. Depuis tout petit, ses performances avec un ballon rond sont sur le web et ceux qui scrutent les vidéos de jeunes prodiges du football le connaissent bien. À 7 ans, alors qu'il joue pour une équipe de la région lyonnaise, le Barça le repère et le recrute. Le petit milieu offensif évolue pendant 5 saisons dans les équipes de jeunes du club. Mais la belle histoire s'arrête là pour Caïs Ruiz. Car en avril 2014, le Barça est jugé coupable d'avoir enfreint la règle concernant l'arrivée des mineurs dans les académies de football où un club ne peut pas recruter un joueur étranger avant ses 16 ans. Conséquence, Caïs Ruiz ne peut plus jouer pour le Barça en match officiel avant ses 16 ans. Le PSG s'engouffre dans la brèche et attire le jeune espoir dans son centre de préformation comme un symbole de la nouvelle politique du club. Trouver de plus en plus jeunes des nouvelles pépites à faire signer. Une histoire qui n'est pas sans rappeler un certain Messi entré au centre de formation du Barça à l'âge de 13 ans.
Le marché des transferts et du concret à Saint-Etienne.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato
Show. Clément Matisse, ça y est, Nolan Roux est un joueur stéphanois.
À 27 ans, l'attaquant quitte Lille où il évoluait depuis 2012, montant du transfert 2 millions d'euros. Nolan Roux portera le numéro 9, libre depuis le départ du buteur turc Melvut Erding vers l'Allemagne. Dans le même temps, Saint-Etienne a annoncé la prolongation de contrat de Romain Amouma, 3 saisons supplémentaires chez les Verts. Et décidément, ça bouge chez l'attaque stéphanoise puisque Max-Alain Gradel, lui, semble tout proche d'un départ. Le joueur a posté un message aujourd'hui sur son compte Twitter. Un message qui ressemble très fort à des adieux. L'Ivoirien, auteur de 17 buts la saison dernière, pourrait rejoindre l'Angleterre. De son côté, Monaco pourrait vendre João Moutinho. D'après les médias anglais, Arsenal va proposer une offre pour le milieu de terrain portugais. À 28 ans, Moutinho ne serait pas retenu par Monaco si l'offre est assez élevée.
Arsenal, décidément très offensif sur ce mercato.
Oui, mais ça coince avec Benzema et le Real. Arsenal cherche un numéro 9 à proposer 46 millions d'euros pour recruter le buteur français. Une offre refusée aujourd'hui par le club madrilène. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour Benzema puisque cela signifie que le nouvel entraîneur du Real, Rafael Benitez, compte bien sur lui pour la saison prochaine.
Et toutes les infos Mercato, vous pouvez les retrouver sur rmcsport.fr. Et puis enfin, un arbitre français dans la top liste de l'UEFA, c'est Clément Turpin qui a été nommé en espérant que ce soit une première étape et qu'il y ait un arbitre français à l'Euro 2016 parce qu'il n'y en avait pas eu pour le Mondial au Brésil.
Les premiers pas de Nicolas Karabatic avec le PSG, c'était aujourd'hui.
Jour de rentrée pour le club et ses nouvelles recrues. Nicolas Karabatic, tout juste revenu de vacances. Il était à l'entraînement cet après-midi pour la première fois. Décontracté, même blagueur, le meilleur joueur du monde a quitté un grand club, le Barça, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Et il arrive avec de l'ambition et un grand sourire.
Ça a pris un petit peu de temps à se réaliser, mais voilà, c'est enfin fait. Je porte les couleurs du Paris Saint-Germain. Je suis avec l'équipe et je suis super fier et super heureux. On a des super joueurs. Ils sont un peu vieillissants, mais je rigole. On a une très belle équipe. On a de fortes individualités. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est pas comme on l'a vu souvent, même chez les Galactiques. C'est pas les joueurs qui, les noms qui gagnent les titres. C'est l'équipe et va falloir réussir à tous jouer en équipe si on veut gagner le titre.
Nicolas Karabatic au micro de Damien Gozioso.
RMC Rugby 2015.
Et l'équipe de France de rugby est en mode montagne aujourd'hui.
Et ça va même continuer ce soir et cette nuit. Programme surprise concocté par le staff. Les joueurs français étaient prévenus qu'ils partaient pour une sortie montagnarde à Tignes, sans avoir les détails de la torture. Laurent Depré y est à Tignes, justement, lors de ce stage de 10 jours des Bleus. Laurent, tu les as suivis une partie de la journée. Le menu était copieux. Et en plus, ça n'est pas encore terminé.
Ouais, copieux, épais, dense, exigeant. Bon, tu peux faire défiler tout le dictionnaire des synonymes. Et tout a commencé ce matin par une surprise, mais pas une surprise concoctée par le staff. Celle-là, un contrôle antidopage inopiné pour 8 joueurs qui ont donc rejoint le reste de la caravane avec une demi-heure de retard. Et là, ils ont pu voir leurs camarades rugbymen devenus alpinistes. À 200 mètres à pic au-dessus d'eux, certes assurés, mais en train de se fader la Via Ferrata avec des parois, des surplombs, des ponts de singes, vertigineux réveil musculaire que tous ont passé, même ceux sujets au vertige, mais pas de nous entre nous. Ensuite, de l'énergétique évidemment, et en cette journée de repos pour le Tour de France, les alpinistes sont devenus cyclistes. Ils ont tout simplement grimpé le col de l'Iseran, 2800 mètres, au bout de 18 km d'ascension en VTT. Aucun abandon. Chapeau messieurs. Là-haut, pique-nique, repos, hydratation et hop, à nouveau les VTT pour retrouver Tignes. Et là, ils ont emprunté les télécabines du col de Fauvière et sont devenus marcheurs pour un trek sportif. 5 km, 700 mètres de dénivelé positif et à peine plus de 2 heures pour faire tout ça sur une ligne de crête pour atteindre enfin leur lieu de repos, le panneau, situé à 3000 mètres d'altitude. Est-ce que Fulgence ou Edraogo, qui fête son anniversaire, aura assez d'air pour souffler ses bougies? On pourrait demander à Virginie Fulgence, mais non, comme c'est un stage de cohésion, ses copains l'aideront. Et demain, Martial, Virginie, on monte encore d'un cran. Rendez-vous à 7h du matin au glacier de la Grande Motte, 3500 mètres pour deviner quoi. Oui, oui, du road bike et d'autres tortures restées encore secrètes de cette sortie.
Merci Laurent. Les obsèques de Jules Bianchi à Nice ce matin avec des stars de la F1 venus rendre hommage au pilote français décédé vendredi soir à 25 ans après 9 mois de coma suite à son accident en octobre dernier lors du Grand Prix de Suzuka. Présent à Nice, Alain Prost, Hamilton, Rosberg, Alesi et Jean-Éric Vergne, pilote français très ému ce matin.
C'est une triste journée, mais je pense que de là où il est, il a vu toutes les personnes qu'il a touchées. Il a touché énormément de personnes et je pense qu'il a énormément apporté et il veillera sur nous tous. C'est un nom qui restera gravé en F1 comme un des plus grands pilotes. Voilà, aujourd'hui, il est au paradis avec tous les plus grands noms de la F1 et il restera un champion à toujours dans nos cœurs.
Voilà, très ému Jean-Éric Vergne avec Benoît Ruiz.
Merci Martial, on va rejoindre Cyril Guimard dans un instant histoire de se mettre en jambes avant les Alpes sur le Tour de France. Vous appelez le 3216 si vous avez une question à poser à Cyril Guimard. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h17, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h et c'est le moment de rejoindre Cyril Guimard sur le pont, même les jours de repos. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir. Ben oui, toujours sur le pont, même le jour des étapes de repos. Et oui, pour nous, le tour est beaucoup plus exigeant que pour les coureurs.
N'est-ce bon, pas
j'espère qu'ils n'écoutent pas les coureurs.
Non, on va pas
sinon,
dire ça.
Sinon, on va avoir une nouvelle polémique.
Ouais, non, on se repose un petit peu quand même. C'est un tour qui était exigeant pour Jean-Christophe Perrault. On l'a appris il y a quelques minutes. Il a annoncé que c'était son dernier Tour de France et qu'il mettrait fin à sa carrière en 2016. Est-ce que c'est une surprise pour toi, Cyril ?
Non, ce n'est pas une surprise. Il a déjà quand même une carrière bien remplie, énormément de compétitions au plus haut niveau. Alors avant de venir sur la route, il faisait toutes les grandes compétitions de VTT. Rappelons vice-champion olympique à Pékin, derrière Julien Absalon. Alors c'est vrai que les chutes ou la dernière chute qu'il a eue l'a peut-être un petit peu refroidi. Alors ce tour, contrairement à celui de l'an dernier qui avait été une apothéose pour lui, j'ai presque envie de dire son bâton de maréchal, cette année c'est retombé d'un cran.
Alors, c'est dur, ça a l'air tellement dur quand on le voit.
Eh oui, non mais honnêtement, il a vraiment morflé, il a vraiment souffert. Et en cette étape de repos aujourd'hui, il est peut-être aussi un petit peu, on va dire, un petit peu en déprime hein, par rapport au tour qu'il vit et cela peut-être précipité sa décision. Alors j'ai presque envie de dire, attendons que le tour soit passé, attendons, on va dire un mois et demi, qu'il ait fait un petit peu le point de tout ça et peut-être qu'il reviendra sur sa décision. Vous savez, la décision d'arrêter, c'est quelque chose qui doit être totalement mûri, réfléchi. Là, sur une étape de repos, le balancer comme ça, j'ai peur que
ça n'ait pas été du moment. Ouais, le ras-le-bol du moment qui prenne le dessus. Autre moment important dans cette journée de repos aujourd'hui, c'est la Sky qui a publié des données sur la puissance et la cadence de pédalage de son leader, du maillot jaune, Chris Froome. Est-ce que c'est convaincant, Cyril ? Est-ce que ça peut mettre fin aux suspicions ou pas du tout ?
Alors, mettre fin aux suspicions, ce sera très très difficile. Vous savez, une fois que vous avez une grosse vague qui est partie avant qu'elle arrête, ça demande beaucoup de temps. Alors moi, j'ai regardé rapidement, parce que je viens de les avoir, les données qui ont été données par Sky. Alors c'est vrai, elles ne permettent pas d'avoir de la suspicion. Remettre en cause ces chiffres, oui, il y en a qui le feront par obligation. Il y a quand même une petite inconnue, mais qui n'est pas énorme, parce que les variations ne sont pas énormes. C'est quel est le véritable poids au pied du col. Donc ils ont donné le poids de 67,5 kg. Imaginons qu'au pied du col, compte tenu de la déshydratation, des calories brûlées, enfin au bout de plusieurs heures, même s'il était un kilo et demi moins lourd, cela ne modifierait pas énormément ce que l'on appelle les watts par kilo. Et puis il y a un petit problème sur les 6% qui reste à démontrer, mais qui n'ont pas une grosse incidence, puisqu'ils annoncent 5,78 et on tomberait à peu près entre 6,1 et 6,3, ce qui est parfaitement acceptable.
Donc c'est-à-dire que tous ces chiffres paraissent normaux comme ça, mais il n'empêche que ça ne réussit pas à convaincre totalement ceux qui doutent un petit peu des performances de Chris Froome.
Vous savez, quand on n'aime pas et qu'on doute, il est très difficile d'accepter.
C'est pas trois chiffres comme ça qui vont changer les choses.
C'est dur d'accepter la vérité ou les vérités, ou on va dire c'est leur vérité et qui nous dit que il faudra un peu plus de temps, et puis il faudra continuer à donner ces données.
Oui.
Parce que là, continuer à les donner.
Ce qu'il y a, c'est qu'on se doutait bien, là, à partir du moment où ils ont dit attention, on va publier des chiffres, on se doutait bien que ça allait pas être des chiffres anormaux, hein, donc on n'est pas spécialement surpris.
Voilà. Ben écoutez, Virginie, vous commencez vous-même à remettre en cause.
Non, je me permettrai pas. Mais là, au moment où ils ont dit ça, je me suis dit.
La façon dont vous avez tourné la phrase, c'est il y a une petite part d'ambiguïté.
Voilà, je vais me fâcher avec vous, bon. Je le sens. Il y a Nicolas au 32-16.
Et pourtant, Dieu sait si vous êtes une supportrice de Froome et de la Sky.
Oui, mais enfin, je peux douter aussi quand même de temps en temps. On est aussi là pour ça. C'est aussi notre boulot.
Attention, on peut prendre des claques.
Hein. Oui, j'ai bien compris.
On a un auditeur.
Nicolas, oui, nous appelle au 32-16. Bonsoir, Nicolas.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, Nicolas.
Et Nicolas, vous observez de près ce qui se passe sur le Tour de France et vous voudriez qu'on respecte un petit peu la présomption d'innocence, comme on dit ?
Bah, d'un côté, j'aimerais qu'on respecte la présomption d'innocence, parce que forcément, tant que Froome ne s'est pas fait choper, et s'il ne se fait jamais choper et qu'il est propre, c'est quand même très dur de le massacrer un peu comme on le fait ces derniers jours. Mais bon, à côté, c'est sûrement un exceptionnel champion, hein, tout comme les Armstrong d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on voit la facilité qu'il a à répondre aux attaques de ses concurrents, on peut quand même se demander ce qu'il a réellement dans les jambes. Bon, après, c'est vrai que moi, ce que je voudrais insister quand même, c'est que si aujourd'hui on se pose ces questions, et même si on a envie de respecter la présomption d'innocence, c'est quand même à cause de tout ce qu'on a subi et de tout ce qu'on a découvert sur le Tour ces 20 dernières années, où on a quand même énormément de grands champions qui se sont fait choper. Donc voilà, je crois qu'en tant que spectateur, c'est normal qu'on se pose des questions. Et même au-delà de tout, qu'on remette un petit peu en cause de temps en temps quand les directeurs sportifs ou autres personnes intervenant sur ce Tour nous disent arrêtez d'aller sur ce débat, ce débat n'a pas lieu. Si, ce débat il a lieu parce que Froome, sur les performances qui développe cette dernière semaine, rappelle extrêmement les performances d'Armstrong à l'époque où il surclassait tout le monde. Et donc forcément, nous on fait un parallèle. Alors c'est effectivement très compliqué de taper sur Froome comme ça, parce que c'est sûr que si le mec il est propre et que ça c'est dû qu'à son travail, c'est forcément dégueulasse. Et en même temps, nous on est quand même dans une situation un peu particulière, ou même moi le premier, et Dieu sait que j'ai pas envie d'aller sur ce sujet. je me pose quand même de sacrées questions. Même quand je vois Nibali qui l'année dernière surclassait complètement le Tour et qui cette année est complètement à la ramasse, bon, même si là il semble se réveiller, il n'empêche que je me dis, et puis même, et puis j'ai surtout pas envie de taper sur les Français et le reste, mais je me dis comment c'est possible que des coureurs qui ont fait deux ou troisième au Tour de France l'année dernière se retrouvent à plus d'une demi-heure. Je veux bien qu'il y ait des défaillances, mais c'est vrai que des fois je me dis bon, qu'en est-il de malheureusement, qu'en est-il du dommage, du dopage dans le cyclisme aujourd'hui, quoi, hein.
Merci Nicolas. Cyril va.
La question est complète, il y a même les réponses dedans. Oui.
C'est ça le plus pratique. Non, mais par exemple, il y a Alejandro Valverde aujourd'hui qui a dénoncé le lynchage, ce qu'il appelle le lynchage de Chris Froome. C'est-à-dire qu'il a aussi des défenseurs hein, dans le peloton, Chris Froome.
Oui, mais Lance Armstrong aussi, hein. On avait. Vous savez, des fois, il vaut mieux avoir des propos très gentils avec ceux qui détiennent le pouvoir. Pouvoir entre guillemets, mais quand vous êtes maillot jaune sur le Tour de France, vous détenez un pouvoir. Mm-hmm. Donc, il vaut mieux dire des choses gentilles sur ceux qui détiennent le pouvoir. C'est vrai dans le sport, c'est vrai dans tous les domaines de la vie.
Il vaut mieux flatter les puissants, comme on dit.
Et ça permet de mieux vivre, hein, vous connaissez le proverbe. Moi, ce genre de choses, ça m'inquiète pas, ça me fait ni chaud ni froid. Il y a des réalités, et Nicolas les a évoquées tout à l'heure. Pendant dix ans, personne. Enfin, il y a eu beaucoup de remises en cause des performances de Lance Armstrong. Il aura fallu 10 ans, même plus, pour que la triche au niveau d'Armstrong soit avérée. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui doutent, je comprends qu'il y a des gens qui défendent, chacun a le droit d'avoir son opinion, mais derrière tout cela, lorsque il y a ces doutes et ces suspicions, il faut être transparent. Si vous n'êtes pas transparent, alors vous attisez le feu. Vous mettez de l'huile sur le feu. Alors, aujourd'hui, la Sky commence à donner des chiffres que les scientifiques vont analyser, que moi j'ai commencé à regarder de plus près, parce que je n'ai jamais commenté les watts, je n'ai jamais commenté les fréquences de pédalage, parce que c'est trop compliqué et on peut pas le faire, parce qu'avec un chiffre, ceux qui le font avec un chiffre, c'est intellectuellement malhonnête. Donc maintenant, on a un certain nombre de chiffres, donc on va pouvoir un petit peu les malaxer. Voilà. Bon, mais ce qu'il faut, c'est que Froome les donne, mais il faut que les autres les donnent aussi. Alors il y en a déjà qui le font. Mais si la Sky, eh bien, qui réclame au niveau des instances de l'Union cycliste internationale qu'il y ait un petit peu comme le passeport biologique, un passeport des puissances, à ce moment-là, les suspicions tomberont d'elles-mêmes parce que on aura ces profils de puissance.
Sauf mais là, il n'y fait... a pas juste la Sky qui ne donne pas toutes ces données.
Beaucoup les donnent. Mais oui, mais bien sûr qu'il y en a d'autres qui les donnent pas. C'est pour ça que si on veut éviter, le problème du cyclisme, c'est la suspicion permanente. Donc, on a lutté contre le dopage et aujourd'hui, on peut dire que, allez, non, c'est pas 100%, ça existera jamais, mais on va dire que, allez, 9 coureurs sur 10 respectent les règles en matière d'antidopage. Mais bon, il y en aura toujours un peu, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en chope, hein, sinon on n'en chopperait pas. Hein. Bon, mais si on faisait pas de contrôle, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de dopé. Donc il faut qu'au niveau des puissances, on ait la même attitude, et à partir de ce moment-là, la suspicion commencera par s'atténuer progressivement. Et puis on aura une certaine sérénité, y compris les journalistes, y compris les consultants qui se font bien allumer ces derniers temps.
Tout le monde se fait allumer là, hein, en ce moment. Les coureurs, les journalistes, les consultants,
Les médias, et les médias par d'autres médias d'ailleurs, c'est assez amusant. C'est-à-dire que vous avez des médias qui attaquent des médias, vous avez l'organisation qui attaque les médias.
C'est la première
fois qu'on voit, par exemple, l'organisation du Tour de France dire, attendez, messieurs les médias, mettez en sourdine, quoi. C'est vous qui êtes responsable de... Or, le Tour de France est organisé, c'est quand même un média. Hein,
oui, non, mais bien sûr.
Donc. C'est quand même le journal L'Équipe, c'est le Parisien, enfin c'est un groupe de presse derrière. Donc, on commence à avoir des médias qui tapent sur d'autres médias. Alors, je pense que une des raisons pour cela, c'est qu'on voudrait tellement avoir une belle image du cyclisme idyllique que quand vous avez ce genre d'affaires, eh bien, ça porte atteinte à l'image, et quand ça porte atteinte à l'image, ça porte atteinte à ceux qui semblent ou voudraient penser qu'ils sont touchés. Mais, comme je le dis, là encore, de la transparence, de la transparence, de la transparence.
Merci Cyril, de la transparence. Il y en aura aussi à 19h avec Fred Adam, avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui sera votre invité à 19h30. Demain, bien sûr, on te retrouve aussi et toute la Dream Team pour la 17e étape entre Digne-les-Bains et Praloux. À tout à l'heure sur RMC. Eric Salio va nous rejoindre en studio tout à l'heure. On va parler de tennis, on va également parler de volleyball et puis de handball, puisque c'était la reprise au PSG avec une sorte de dream team aussi. C'est quasiment l'équipe de France plus des joueurs étrangers, des internationaux étrangers qui sont là maintenant dans cette équipe. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est presque 18h32 sur RMC, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h. Et on va parler de cette affaire qui secoue le volley français. Hier, ici même, les joueurs de l'équipe de France venaient fêter leur victoire en Ligue mondiale, une victoire historique. Et puis aujourd'hui, c'est un peu la douche froide. Erwin N'Gapet, la star des Bleus, meilleur joueur de cette Ligue mondiale, a été entendu par la police. Il aura agressé un contrôleur de train. Julien Richard, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé?
Alors, les faits se sont déroulés ce matin. Gare Montparnasse, à Paris, Erwin N'Gapet aurait demandé au contrôleur d'un train à destination de Bordeaux de retarder le départ pour attendre un ou plusieurs proches qui étaient en retard. Une élue CGT Cheminot nous raconte qu'il a prétexté même sa célébrité pour faire retarder le départ du TGV. La discussion se serait envenimée et l'attaquant de l'équipe de France aurait donc frappé le contrôleur au visage, roué de coups même, selon cet élu CGT. Bilan, une arcade sourcilière ouverte, le contrôleur et la SNCF ont porté plainte. Erwin N'Gapet a été entendu par la police, alors non pas sous le régime de la garde à vue, mais en audition libre. Et il devrait être reconvoqué dans les prochains jours.
Alors Julien, Erwin N'Gapet, c'est la star de l'équipe de France. Oui. Il faut bien l'avouer, il a une petite réputation de bad boy aussi. Hein.
Effectivement, alors élu, tu l'as dit, meilleur joueur de la Ligue mondiale. Hein. Il avait réussi justement ces derniers mois, plus ou moins, à gommer cette image de bad boy du volley français qu'il traîne en fait depuis son exclusion de l'équipe de France en plein mondial 2010 pour avoir insulté le sélectionneur de l'époque, Philippe Blin. En janvier 2014, il avait refusé de retourner jouer dans son club en Russie, en Sibérie. Il ne supportait plus l'éloignement avec sa compagne et sa fille. Un club entraîné pourtant par son papa, Eric N'Gapet, qui ne lui a donc pas pardonné. En décembre dernier, il a fait parler de lui, mais cette fois dans la rubrique Fait divers. Première apparition donc avec Erwin N'Gapet, qui est condamné à 3 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Montpellier pour avoir participé à une rixe à la sortie d'une boîte de nuit. C'était en 2013. Et depuis l'arrivée de Laurent Tilly à la tête de l'équipe de France il y a 3 ans, Erwin N'Gapet est vraiment devenu à 24 ans le leader en dehors et sur le terrain de cette équipe de France. Il est par exemple à l'origine du surnom des Bleus, dont on a parlé hier, la team Yavbou.
Merci Julien Richard. On va accueillir en ligne Pascal Foussard, qui est manager de l'équipe de France de volley. Bonsoir Pascal Foussard.
Bonsoir.
D'abord, quelle était votre première réaction quand vous avez appris ce qui s'était passé? Comment vous l'avez appris?
Je l'ai appris par la presse. Hein. Je l'ai appris uniquement par la presse et par l'AFP. Et bon, par le service communication de la fédération aussi, j'ai pas appris autrement. Bon, j'étais un peu abasourdi. Bon, j'ai pas plus d'infos que vous n'avez. Vous en avez même plus que moi. Les seules infos que j'ai par une source que je peux pas divulguer, c'est que les avis divergent entre les deux parties. Donc, voilà, comme souvent dans ce genre d'histoire. Donc, je pense que tant que j'ai pas eu Erwin, tant qu'il n'y a pas la lumière de fait, il est quand même très difficile de donner un avis. Après, c'est juste dommage ce qui arrive, des choses comme ça. Après, j'ai juste ce que ça a à dire pour l'instant. Pas grand chose.
C'est-à-dire, quand vous dites que les avis divergent, ça veut dire que ce que dit la SNCF, c'est pas ce que vous disent aujourd'hui les volleyeurs qui étaient présents à la gare Montparnasse?
Il y a pas, je sais pas s'il y avait de volleyeurs présents, je pense pas qu'il y avait de volleyeurs présents. J'ai juste une information qui n'est pas des volleyeurs, donc que je ne peux pas divulguer, il y a des avis qui sont de divergence, ce qu'a dit la SNCF et Erwin, bien entendu, mais c'est ce que je dis, c'est souvent le cas dans ces histoires. Donc voilà, pour l'instant je pense qu'à un moment donné Erwin va donner sa version, je l'aurai peut-être à un moment donné, donc voilà, et après on va voir ce qui se passe sur un point de vue, ce que dira la police, quoi. Je pense qu'il faut être toujours prudent dans ce genre d'histoire, surtout à chaud, sans beaucoup d'informations, que des choses qui sont rapportées, je reste prudent. Après, il y a sûrement eu altercation, ça c'est clair. Voilà.
Et est-ce que l'équipe de France ou la Fédération française va prendre une position, va faire un communiqué, va se réunir, ne serait-ce que pour parler de ce problème ou pas?
Je pense qu'il y aura un communiqué, mais le gros problème de la fédération, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de fédération, parce qu'il n'y a plus de président. Elle a été démise lors de la dernière AG, ce qui va encore compliquer les choses. Il est aussi tôt pour parler de sanctions, pour parler de quoi que ce soit. Donc, je sais pas, au jour d'aujourd'hui, la fédération, c'est que l'équipe de France, et avec Laurent Tilly, entraîneur, et moi, manager. Donc, c'est très simpliste, quoi. Donc, c'est compliqué.
Laurent Tilly, voilà. qui était ici même en studio hier pour parler de cette magnifique victoire pour l'équipe de France. Vous, Erwin N'Gapet, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'il a joué à Tours, vous avez été aussi son manager à Tours. On sait que c'est un joueur hyper doué, on sait aussi que c'est un joueur un petit peu difficile à gérer.
Et oui, je l'ai eu, il avait même pas 18 ans à Tours, il est resté 3 ans. Oui, enfin, difficile à gérer, c'est un joueur exceptionnel, extraordinaire. Après, c'est un joueur très affectif, très très affectif, et avec qui on a beaucoup d'affection. Et après, il a par moments des pulsions très fortes. Il est contre il a un problème, c'est qu'il est contre l'injustice totale. Donc, le problème devant ce genre de fait, il réagit par moments trop violemment ou trop énergiquement. Je sais pas exactement le terme, mais il est souvent à fleur de peau sur ce genre de choses. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Donc, c'est compliqué de donner un avis sans commettre des éléments. Et je ne veux pas donner un avis dans un sens ou dans un autre qui pourrait porter préjudice à qui que ce soit. Donc, voilà. Mais c'est un joueur, oui, talentueux et un peu qui a le sang très chaud. Voilà ce que je peux vous dire, Dervin.
Évidemment. Et pour avoir une précision, j'imagine que hier soir, vous avez fait la fête, les volleyeurs. Voir un petit peu le contexte aussi, quoi. Vous avez fêté cette Ligue mondiale, quand même.
Oui, ils ont fêté. Personnellement, j'y étais pas. J'étais retourné dans ma famille. Mais, oui, ils ont fait une soirée. Après, ils ont fait une soirée. Donc, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Oui, ils ont fait une soirée. Je pense qu'ils ont bien entendu arrosé comme toute équipe de haut niveau la victoire, bien entendu. Donc après, ça se fait avec modération ou pas, je ne sais pas, j'étais pas là.
Alors, ce qu'on se dit, c'est que le timing est, c'est vrai qu'il est un peu mauvais, parce que là, il y a quand même l'équipe de France qui vient de remporter un titre majeur, le premier titre mondial de son histoire. Tout le monde en a parlé, et c'était l'occasion. Enfin, c'est l'occasion pour le volley de se faire une place au soleil un peu plus importante en France. Et là, est-ce que vous avez peur que cette histoire gâche un peu tout?
Oui, j'en ai peur, parce que ça ternit complètement l'image du volleyball. Oui, j'en ai peur. J'en ai peur, exactement. C'était ma première réaction. Après, ma deuxième, c'est bon, d'attendre la lumière sur tout ce qui s'est passé. Mais évidemment, il y a beaucoup de gens qui l'image d'Erwin dérange. Donc, dans ces moments-là, mais bien sûr, comme vous l'avez dit, l'image de bad boy ressurgit. Et c'est pas son image pour moi principale. Bon, après, c'est à lui de la corriger. Et peut-être que Erwin a besoin d'être aidé plus que fustigé. Donc, moi, je me pose, en tant que manager d'équipe de France, je me pose surtout la question d'aider Erwin, pas autre chose au jour d'aujourd'hui.
Oui, ben c'est ça, parce que vous, en tant que manager, vous avez un travail sur l'humain aussi qui est très important, j'imagine.
C'est mon travail de tous les jours, surtout en équipe de France, c'est très différent d'un club. Je pense qu'avoir Erwin avec une très bonne relation, il a été 2 mois, on est rentré que 4 jours chez nous avec l'équipe de France en 2 mois. Avec Laurent Tilly, Erwin, qui pourra vous le confirmer, il n'y a eu aucun problème avec Erwin, loin de là. Donc bon, voilà, il a eu une. Ça s'est super bien passé, comme ça se passe souvent depuis Laurent Tilly a repris. Voilà, donc maintenant, je pense que Erwin est plus à aider qu'autre chose. Maintenant, s'il a débordé, effectivement, il faudra qu'il s'en explique.
Est-ce que vous pensez comme ça que le titre de MVP, c'est-à-dire le meilleur joueur de la planète, hein, quand même, volley, ça peut aussi faire péter un petit peu les plombs après
une
fête?
Oui, il y a sûrement eu un contexte, une fête, voilà, il y a une fête, pas dormi, l'excitation, il y a eu plein de choses. Je pense qu'il y a une notoriété qui a explosé, comme vous dites, planétaire, du jour au lendemain. Il n'y a pas une minute où son portable sonne pas, ou un texto arrive pas, ou une demande n'arrive pas. Donc peut-être que ça n'a pas été bien géré, la communication n'a pas été bien gérée sur ce thème-là, et ça l'a peut-être fait exploser vu son jeune âge. Je sais pas, je veux pas lui trouver de faux semblants ou trouver des excuses. Pour l'instant, ce que je redis, j'aimerais connaître tout le dossier, quoi. C'est ça qui est important.
Merci beaucoup Pascal Foussard d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC pour parler de cette affaire. Évidemment, dès qu'on en sait plus, on vous tient informé. Merci beaucoup, manager de l'équipe de France de volley. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Et dans un instant, on va parler tennis et cette équipe de France qui a quand même 4 joueurs parmi les 20 meilleurs du monde et qui n'arrive jamais à gagner en Coupe Davis. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
18h44 sur RMC, l'Intégral Tour continue jusqu'à 21h. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'équipe de France de tennis se casse les dents sur la Coupe Davis d'année en année alors qu'on a tout un groupe de bons joueurs, de très bons joueurs? La défaite contre la Grande-Bretagne en quart de finale est douloureuse, elle ne passe pas. Eric Salio est avec moi pour parler de ce qui ne va pas. Salut Eric.
Bonsoir Virginie.
Alors on a commencé à en parler rapidement hier, là on va entrer un peu vraiment au fond des choses. Arnaud Clément, le capitaine de l'équipe de France, dit que cette défaite lui fait plus de mal que la finale contre la Suisse perdue l'an dernier parce que les Suisses avaient Wawrinka et Federer, donc il faut reconnaître que c'est quand même un peu compliqué. Les Britanniques n'ont que Murray et pourtant les Français ont encore perdu, c'est-à-dire qu'on a l'impression de régresser un peu.
Je comprends qu'il soit dégoûté. D'ailleurs, on a bien senti lors de la conférence de presse commune que les visages étaient très marqués parce que avec un peu de recul, on se dit que ça s'est peut-être joué à 1 ou 2 points. Si Gilles Simon parvient à mener 2 manches à 0 face à Andy Murray, qui était un peu sur les jambes, ça fait 6 mois qu'il est sur le tour, qui était fatigué, je pense que Andy Murray ne revient pas. Alors non, on peut dire Salio, il se mouille, oui, avec des si, oui. Mais on était tout près du plan parfait.
Ah mais on est toujours tout près. On est toujours tout près, mais on n'est jamais dedans.
Ok, où ça a foiré, c'est le double. Concrètement, on savait depuis le tirage au sort, depuis qu'on savait qu'on jouerait les Britanniques chez eux, on savait que le point du double serait essentiel, vital, crucial. Maintenant, il a décidé très tôt, à mon avis, de miser sur Tsonga Mahut, puisque dès qu'ils ont pris possession des cours de Queens, il y avait déjà une première séance d'entraînement avec Tsonga Mahut. Donc je pense que Pierre-Hugues Herbert a compris très vite, je pense qu'il ne jouerait pas. Maintenant, avec le recul, on se rend compte toujours que en double, ça se joue aux automatismes. Les automatismes, le fait de jouer beaucoup de matchs ensemble. Et là, on avait une paire, Mahut-Herbert, qui avait joué énormément, qui avait fait finale à l'Open d'Australie, qui venait de gagner le tour du Queens, qui avait joué des longs matchs à Wimbledon, des matchs en 5-7, donc ils commencent à se connaître par cœur.
Et alors pourquoi?
Peut-être un manque d'audace. La trouille. La trouille de se dire, si je lance le petit jeune et qu'il se troue, je vais en prendre plein la figure.
Mais ah oui, c'est-à-dire qu'on préfère mettre un Tsonga parce qu'il a un nom, parce que à la limite...
Ça présente une sorte de garantie, Tsonga. Il se trouve jamais. Pierre-Hugues Herbert, parfois, il peut passer à côté du match. En finale, le Open d'Australie, bon, il avait des soucis physiques, mais il avait pissé du sang, passez-moi l'expression, avant d'entrer sur le court. Ça trahissait peut-être un certain stress. Ça, Arnaud Clément le savait. Arnaud Clément n'a pas lâché Pierre-Hugues Herbert pendant tout Wimbledon. Pendant qu'il y avait les Cadors qui jouaient, il était sur le court de Pierre-Hugues Herbert. Donc il en a tiré peut-être des leçons, des observations, il a mis les plus, les moins. Au final, il a dit, Pierre-Hugues, c'est trop tôt. Voilà. Donc, il s'est retrouvé avec une paire improvisée, qui avait joué très peu. Bon, les mecs s'entendent bien, Nico, s'entend bien avec tout le monde. Maintenant, sur un terrain, c'est autre chose.
Ah bah oui, c'est pas le fait de discuter en dehors du cours, ça ne fait pas tout. Et puis, alors, je sais pas du tout, hein, mais je me dis aussi, est-ce que c'est un peu se réfugier derrière Tsonga? Parce que si Tsonga perd, on va même pas accuser le capitaine, de toute façon. C'est Tsonga... Parce qu'il est connu, parce qu'il a déjà fait une finale de Grand Chelem, parce que sur le circuit, parce qu'il a déjà dit qu'il voulait gagner des Grand Chelem aussi, parce qu'il a une personnalité. On va dire, c'est Tsonga qui a perdu, quoi.
Oui, mais je pense que plus généralement, et c'est ce que disent les anciens, enfin surtout Henri Lecomte qui s'est beaucoup répandu dans la presse parce qu'il répond au téléphone, lui, ça manque de folie peut-être. Et c'est pas faux. Avec le recul, encore, Lille, on sait que Tsonga s'entraîne 1 jour sur 2. Il y a un moment, il faut prendre une décision. La décision, Arnaud n'a pas osé dire à Joe, écoute, Joe, t'es pas prêt, tu n'y vas pas. Joe, lui, non plus, n'a pas dit, je me sens pas.
Alors non, mais personne n'ose, en fait.
Arnaud Clément, lui, avant la finale 2002, il avait un problème au poignet, il a été honnête vis-à-vis de tout le staff de l'équipe de France, il a dit, les gars, je me sens pas capable d'y aller, il vaut mieux envoyer un autre.
Ah mais du coup, peut-être que parce que lui, il le faisait en tant que joueur, c'est ce qu'il attend de la part de ses joueurs à lui.
On peut le penser aussi. Donc, c'est intéressant comme raisonnement aussi.
Oui,
hein.
Oui, effectivement, pourquoi pas. Mais du coup, en fait, il y a aussi des petites phrases, moi, qui me gênent un peu. J'ai l'impression que chacun se rejette un peu la faute, quoi, parce que Tsonga qui dit un peu mystérieusement, ce sont les choix du capitaine, moi je décide pas de tout. Clément qui dit, on n'a pas un joueur qui va ramasser 2 points à coup sûr. C'est quand même, c'est dur aussi. Hein.
Non, c'est la vérité, ça. C'est la vérité. Il n'y a pas un joueur d'équipe de France qui peut dire aujourd'hui, je peux ramasser 2 points quand on joue les Britanniques. Il faut être top 5 pour ça.
Oui,
ils ont
c'est
été
ça.
Top 5, mais ils sont 11, 12, 13. Il y a un gros écart, on le voit, entre les mecs qui sont juste derrière le top 10 et les 4 ou 5 cadors qui trustent les titres du grand chêne. Donc là, il a raison. Là, on peut pas lui donner tort. Cette équipe fonctionnait un peu en communauté. On se souvient du match contre les Tchèques à Roland-Garros. Gaël Monfils avait fait quart de finale à l'US Open. Il est arrivé à Paris avec le décalage horaire un peu down. Il a dit aux mecs, les mecs, je le sens pas. Alors oui, plan B. Heureusement, on avait Gasquet, on avait des mecs qui étaient prêts à jouer. Mais à un moment, ça suffit. Il faut un capitaine qui tranche, quand Richard Gasquet arrive au rassemblement, il a dû faire sentir qu'il y avait des bobos un peu par-ci par-là.
On a l'air pas digéré.
Voilà, on lui dit t'es pas prêt, tu joueras pas. Et là, on fait un plan B et on lance Herbert Mahut.
Alors parlons-en des joueurs aussi, parce que le capitaine, c'est vrai qu'il a son rôle évidemment, mais les joueurs, tu disais Gaël Monfils qui arrive à Roland-Garros, oui, bon bah je suis fatigué, j'ai fait un quart à l'US Open. Là on a Richard Gasquet, oui, bon bah je suis fatigué, j'ai fait une demi-finale à Wimbledon. Mais Andy Murray aussi, il en a fait une demi-finale à Wimbledon, et lui derrière il gagne 3 points en Coupe Davis. Alors pourquoi on n'est pas capable d'enchaîner des trucs comme ça?
Bon, Richard en plus avait des bobos physiques. Ils nous les ont dissimulés parce que c'est normal, faut pas donner d'informations à l'adversaire. Mais moi j'étais sur place à Wimbledon la veille de sa demi-finale, il avait des soucis aux abdos, il pouvait pas servir quasiment, et ça s'est vu contre Djokovic. Il a eu un pourcentage de première balle absolument dramatique. Donc il y avait des bobos physiques, et vous vous dites ok, il est pas à 100%, donc je vais compter sur les mecs qui sont à 100%. Donc il était en réserve de la République avec le risque que ce match vous le perdiez à 3. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous aviez 5 mecs compétitifs et on a vu que 3 mecs sur les cours du Queens. C'est ça qui est rageant.
Oui, c'est rageant. En même temps, la Grande-Bretagne, ils l'ont gagné avec 1. Donc,
oui, mais ils n'avaient pas d'autre choix.
C'est vrai qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Il y a Alexandre qui nous appelle au 32-16 pour parler de cette équipe de France de tennis. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, tu as regardé ce quart de finale de Coupe Davis?
Oui, bah évidemment, j'en ai pas loupé une miette, et je disais à l'instant au standardiste, le premier sentiment que j'ai eu, moi, c'était un peu une espèce de manque, pas d'envie, mais de combativité. Alors, j'ai envie de prendre des gants pour parler de tout ça, parce que avant, j'ai été vraiment très dur avec Clément, et là, j'ai envie de l'être un petit peu moins, mais je me dis que, oui, pourquoi ne pas tenter Pierre-Hugerbert avec Mahut? Qu'est-ce qu'on risque entre faire jouer une paire de doubles qui n'a joué que 4 matchs ensemble et une paire de doubles qui est rodée avec certes un joueur un peu moins connu, Pierre-Hugerbert, mais qui sont rodés en double? Je veux dire, Fabrice Santoro et Mikael Liodra, ils n'étaient pas classés top 30 tout le temps, et c'était une excellente paire de doubles. Donc, pour moi, il y a peut-être un petit peu de frilosité de la part de Arnaud Clément, qui n'a pas voulu, comme tu disais Eric, prendre le risque d'envoyer Pierre-Hugerbert. Au final, qu'est-ce qu'on avait à perdre au final? Alors oui, on a une finale de Coupe Davis à défendre, un gros objectif, ça fait plusieurs fois que ça nous file entre les doigts, mais à un moment, il faut tenter quelque chose. Si tu ne tentes pas, tu peux pas y arriver. Il faut tenter au bout d'un moment. Il faut oser, c'est toujours ce que je dis tout le temps, les top 10, il faut les agresser pour leur rentrer dedans, oser en permanence. Et pour moi, la base du tennis, ce qui est ça, et ce qui fait qu'il est beau, c'est qu'il faut oser. Et moi, j'aurais vraiment préféré voir, à la limite, si Gasquet n'avait pas eu de problème physique, Gasquet m'a eu, plutôt que de voir Tsonga m'a eu, parce que déjà Tsonga à la volée, c'est un peu moins fort que Richard déjà. Mais
est-ce que c'est ça, Eric? Est-ce qu'on n'ose pas assez dans cette équipe de France?
Peut-être que Arnaud est capitaine comme il était joueur. Arnaud avait un style de jeu où il y a beaucoup de sécurité, beaucoup de combativité. Peut-être ça se retranscrit dans sa fonction. On a un exemple tout frais là. L'Espagne s'est fait sortir en Russie. Pourquoi? Parce que les Russes ont aligné un jeune qui a 17 ans, Rublev, qui n'a peur de rien, qui est déjà très mal vu sur le circuit, qui est obligé de s'excuser auprès de Robredo parce que le mec, il pète des plombs, quoi. Il a déjà la grosse tête.
Ah, nous, ça, c'est sûr, ils sont polis, les nôtres.
Ah, bah, lui, Rublev, il a peur de rien et il a gagné le premier cinquième match décisif de sa carrière qu'il a livré. Et il met l'Espagne dans l'embarras. Donc voilà, il faut, bon, attention, on n'a pas tous ces jeunes-là encore, mais Pierre-Hugues, il avait qu'une envie, c'est d'y aller.
Oui. C'est-à-dire qu'il faut y aller peut-être avec un peu plus le couteau entre les dents, quoi.
Pierre-Hugues, il serait rentré dans la rencontre à fond. En plus, avec Nico, il se complète parfaitement. Il aurait eu tous ses potes derrière. Il y avait son père qui était là, son grand-père. Je pense qu'il aurait pu livrer le match de sa vie. Maintenant, on n'en est pas sûr. Il aurait pu se trouer tout autant. Parce que la charge émotionnelle d'une rencontre de Coupe Davis, c'est inégalable. Inégalable. Personne ne peut dire comment va réagir un joueur après une Marseillaise, afin de le porter le maillot bleu. Personne ne peut dire comment Pierre-Hugues aurait réagi.
Oui,
mais j'aurais été curieux de voir ça.
Oui. Ben, le truc, c'est ça, c'est qu'au moins, fallait peut-être essayer. Ce sera la conclusion. Merci beaucoup, Eric Salio, pour cette campagne de Coupe Davis 2015. Il y en aura une en 2016. On va te retrouver à ce moment-là. Et puis, évidemment, largement avant sur l'antenne d'RMC. On va parler un petit peu du PSG maintenant, mais pas le PSG foot, le PSG handball. Reprise de l'entraînement aujourd'hui pour les joueurs. William Acambray est notre invité. Bonsoir William.
Bonsoir.
Alors comment ça s'est passé cette rentrée des classes?
Ça s'est bien passé, tout le monde est heureux de se retrouver. On a fait justement notre petite journée habituelle, donc réunion, toutes les photos de début de saison, un repas tous ensemble, les essayages et le premier entraînement aussi.
Et comment ça se passe? On se raconte les vacances dans ces cas-là ou on parle plutôt de la saison qui arrive?
On se raconte plutôt les vacances parce que la saison qui arrive justement, on a le temps pour pouvoir en parler. Donc non, on essaie surtout de se raconter un peu ce qu'on a fait les uns les autres pendant nos jours de repos et voilà.
Et puis c'est donc la rentrée, il y a forcément des petits nouveaux, donc chacun se présente, il y a un bizutage, comment ça se passe?
Il n'y a pas de bizutage, après chacun se présente oui et non, parce que la plupart des joueurs se connaissent depuis longtemps, même si certains n'ont jamais joué ensemble, à force de jouer les uns contre les autres, on connaît forcément un peu la personne en face. Donc non, je pense que tout le monde est content d'être là, les nouveaux arrivants sont heureux d'être au PSG, ça se sent, ça se voit, donc je pense que tout le monde a hâte que ça commence et justement qu'on puisse faire une bonne préparation pour ensuite arriver au moment du championnat sur justement être l'équipe la plus forte possible pour pouvoir tout rafler cette saison.
Tout rafler, hein, c'est ça le but, puisque en championnat, vous êtes champion en titre. Ce qui manque maintenant, c'est la Ligue des Champions.
La première journée aussi, les objectifs ont été énoncés, donc les objectifs sont bien évidemment tous les titres nationaux et justement on doit aussi gagner le championnat sans laisser aucune défaite, donc c'est aussi un des objectifs évoqués par l'entraîneur Noka Sardarusic et bien évidemment la Ligue des Champions qui est justement la compétition où l'équipe a été créée pour cette compétition justement. Si le PSG a un effectif aussi costaud aujourd'hui, c'est justement pour aller au bout de cette compétition-là, donc c'est un objectif prioritaire aussi, oui.
Alors justement, jusqu'à présent, enfin vous avez chuté en quart de finale en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui peut faire que cette année ça se passe pas de la même manière et que vous puissiez aller au bout?
Je pense qu'il y a eu beaucoup de blessés à un moment donné, donc c'est ce qui nous a bloqué à un moment donné, justement sur le fait de pouvoir passer au tour suivant. Et en tout cas, on a perdu contre le finaliste l'année passée, donc voilà, on espère faire mieux la saison qui suit.
Alors je rappelle les deux informations qu'on a apprises cet après-midi. Jean-Christophe Perrault, deuxième du Tour de France l'année dernière, en difficulté cette année, a annoncé que c'était son dernier tour. On va en parler sans doute avec Fred Adam dans un instant. Et puis Erwin Engapet a été entendu par la police cet après-midi parce qu'il aurait agressé un contrôleur de train ce matin à Montparnasse. On va en reparler bien sûr dès qu'on a de plus amples informations. C'est le Tour de France, c'est Fred Adam qui est aux manettes. Salut Fred.
Pendant que d'autres sont au bord de la piscine, même si le temps est un peu orageux aujourd'hui en cet après-midi.
Et voilà,
Agathe, bonsoir.
C'est inéquitable.
Mais oui, c'est le bon Dieu qui les a punis sur ce coup-là. Effectivement, deuxième et dernière journée de repos à Gap aujourd'hui. Temps un peu lourd, atmosphère toujours un brin pesante sur la route du Tour. On aura l'occasion de se projeter sur la dernière partie du Tour, les quatre étapes alpestres avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. On en parlera évidemment avec notre Dream Team Tour de France, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon, Cyril Guimard, et puis on accueille deux invités en cette journée de repos à Gap. Jean-René Bernaudeau, le patron de l'équipe française Europcar, qui a du mal à trouver un repreneur, et puis le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, du gratin aujourd'hui dans le studio RMC avant de repartir à l'assaut des montagnes.
RMC Intégral Tour.